Les danseurs par Arthur Conan Doyle. Holmes était assis depuis plusieurs heures silencieusement. Son dos long et mince était courbé sous un bocal de chimie dans lequel il mélangeait des produits d'une odeur nauséabonde toute particulière. Sa tête était penchée sur sa poitrine et elle représentait à mes yeux l'image d'un grand oiseau maigre au plumage gris à la houppe noire. « Dites-moi, » fit-il tout à coup, « qu'est-ce que vous pensez de ceci, ami Watson ?» Et lançant sur la table une feuille de papier, il se remit à ses analyses chimiques. Je regardais avec étonnement des hiéroglyphes ne présentant aucun sens. « Mais Holmes, c'est un dessin d'enfant, » m'écriai-je. « C'est là votre idée ? Quelle autre chose cela pourrait-il être ?»« Voilà ce que voudrait bien connaître, Monsieur Hilton Cubitt, de Ridingthorpe Manor, dans le Norfolk. Cette première énigme m'est parvenue par le premier courrier et lui-même va m'arriver par le premier train. Voilà un coup de sonnette, Watson. Je serais très étonné si ce n'était pas lui. » Un pas lourd se fit entendre sur l'escalier, et un instant plus tard, un grand monsieur au visage rouge et imberbe fit son apparition. Ses yeux clairs, ses joues colorées, démontraient que sa vie s'était passée loin des brouillards de Baker Street. Il semblait apporter avec lui les effluves de la brise marine si forte, si fraîche, si vivifiante. Après nous avoir donné à chacun une poignée de main, il allait s'asseoir quand son regard tomba sur la feuille de papier au signe bizarre que je venais d'examiner et que j'avais laissé sur la table. « Eh bien, Monsieur Holmes, qu'est-ce que vous avez pu en tirer ? » s'écria-t-il. « C'est certainement un objet plutôt curieux, » dit Holmes. « Au premier aspect, on dirait le dessin d'un enfant. Il y a là un certain nombre de personnages bizarres dansant sur le papier où ils sont dessinés. Pourquoi accorderiez-vous de l'importance à une chose si grotesque ? Je n'y attacherai aucune importance, mais c'est ma femme qui s'en préoccupe. Elle en est effrayée à mourir, elle ne dit rien, mais je lis la terreur dans ses yeux. » Voilà pourquoi je veux aller au fond des choses. » Holmes leva la feuille pour la mettre en pleine lumière. C'était une page enlevée à un carnet. Les signes étaient faits au crayon. Holmes l'examina pendant quelque temps avec soin et la plaça dans son portefeuille. « Cela promet d'être une affaire très intéressante et peu ordinaire, » dit-il. « Vous m'avez donné quelques détails dans votre lettre, Monsieur Hilton Cubitt, mais je vous serai très obligé de les répéter à mon ami le docteur Watson. » « Je ne suis pas un narrateur, » dit notre visiteur en serrant et desserrant nerveusement ses mains puissantes. « Vous me ferez compléter ce qui ne vous paraîtra pas clair. Je commencerai mon récit au moment de mon mariage l'année dernière. À cette époque, venu à Londres pour le jubilé, j'étais descendu dans une pension de famille à Russell Square, où Parker, le pasteur de notre paroisse, était également descendu. J'y rencontrai une jeune fille américaine, elle s'appelait Patrick, Elsie Patrick. Nous ne tardâmes pas à devenir bons amis, et avant la fin du mois, j'étais aussi épris d'elle qu'un homme peut l'être. Nous nous mariâmes tranquillement chez un registreur et nous rentrâmes ensuite à Norfolk. Vous pensez peut-être, Monsieur Holmes, qu'un homme appartenant à une bonne et ancienne famille est fou de se marier de cette façon, sans connaître le passé de sa femme ou de sa famille. Mais si vous l'aviez vu et connu, cela vous eût aidé à comprendre. Elsie fut très franche. Et je ne puis dire qu'elle ne m'ait pas laissé libre de me retirer si je le voulais. J'étais mêlé, me dit-elle, à une société qui m'a été très pénible dans ma vie. Je désire l'oublier. Je voudrais bien n'avoir jamais à revenir sur un passé très douloureux pour moi. Si vous m'acceptez, Hilton, vous pouvez être sûr que votre femme n'a personnellement à rougir de rien. Mais vous devrez vous contenter de sa parole et lui permettre de garder le silence sur tout ce qui s'est passé avant qu'elle vous appartienne. Si ces conditions sont trop dures, alors retournez dans le Norfolk et abandonnez-moi à la vie triste dans laquelle vous m'avez trouvé. Je lui répondis que j'acceptais ses conditions et j'ai toujours tenu parole. Nous voilà mariés depuis un an et nous avons été très heureux. Il y a un mois, à la fin de juin, je vis pour la première fois des signes d'orage. Un jour, ma femme reçut une lettre d'Amérique dont je remarquais le timbre d'origine. Elle devint pâle, la lut et la jeta au feu. Elle n'y fit depuis aucune allusion et moi pas davantage, car une promesse est une promesse. Depuis lors, elle n'a pas une heure de tranquillité. Son visage exprime toujours la frayeur, on dirait qu'elle craint l'avenir. Elle ferait mieux de se fier à moi, car elle verrait que je suis son meilleur ami. Mais jusqu'à ce qu'elle parle, je ne peux rien dire. J'arrive maintenant aux détails bizarres de mon histoire. Il y a environ une semaine, c'était mardi de la semaine dernière, j'ai trouvé dessiné à la craie, sur le rebord d'une fenêtre, un grand nombre de bons hommes dansants, semblables à ceux qui sont sur ce papier. Je supposai qu'ils étaient l'œuvre du garçon d'écurie, mais il jura n'y être pour rien. Ils avaient été tracés pendant la nuit. Je les fis effacer, ce fut après cette opération seulement que j'en parlai à ma femme. À ma grande surprise, elle prit la chose très sérieusement et me supplia, si on en trouvait d'autres, de les lui laisser voir. Rien ne se passa pendant une semaine. Hier matin, je trouvai cette feuille dans le jardin, sous le cadran solaire. Je la montre à Elsie qui s'est aussitôt évanouie. Depuis ce moment, elle a le regard d'une personne qui vit dans un rêve, à moitié inconsciente, les yeux fixes de terreur. La première chose que je vis le lendemain fut un nouveau groupe de bonshommes dessinés à la craie sur la porte en bois noir de la cabane à outils qui se trouve à côté de la pelouse, juste en face de nos fenêtres. J'en ai pris une copie exacte que voici. Et il déplia un papier qu'il posa sur la table. « Parfait, dit Holmes. Continuez, je vous prie. » Après en avoir pris copie, je les effaçai, mais deux matins après, une nouvelle inscription apparut. En voici le fac-similé. Holmes se frotta les mains et se mit à rire, tout joyeux. « Nos matériaux s'accumulent rapidement, » dit-il. 3 jours plus tard, un nouveau message était placé sous une pierre sur le cadran solaire. Le voici. « Les caractères sont, comme vous le voyez, exactement pareils au dernier. » Après cela, je résolus de faire le guet. Je pris mon revolver et m'installai dans mon cabinet, dont l'on voit la pelouse et le jardin. Vers 2 heures du matin, j'étais assis dans l'obscurité près de la fenêtre, tandis que le clair de lune brillait au dehors. Lorsque j'entendis des pas derrière moi, j'aperçus ma femme en robe de chambre. Elle me supplia d'aller me mettre au lit. Je lui dis franchement que je désirais savoir qui nous jouait de pareils tours. Elle me répondit que c'était là une plaisanterie sans importance dont je ne devais pas m'inquiéter. Tout à coup, comme elle parlait, je vis à la lueur de la lune pâlir son visage et sa main se serra sur mon épaule. Quelque chose remuait dans l'ombre près de la cabane à outils. J'aperçus une forme sombre qui se traîna dans le coin et s'assit devant la porte de cette cabane. Saisissant mon revolver, j'allais m'élancer au dehors, quand ma femme jeta ses bras autour de moi et me retint avec des efforts convulsifs. J'essayai de la repousser, mais elle s'attacha à moi désespérément. Enfin, je fus libre, mais quand j'ouvris la porte et que j'eus atteint la cabane, l'homme avait disparu. Il avait cependant laissé une trace de sa présence, car sur cette porte se trouvait encore une série de danseurs semblables à celles qui avaient déjà paru 2 fois. Je les ai reproduits sur ce papier. J'ai parcouru toute la propriété sans trouver d'autres traces de l'individu. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que malgré tout, il a dû rester car le lendemain matin, lorsque j'examinais la même porte, j'ai trouvé une nouvelle ligne de bonshommes sous la précédente. Avez-vous aussi ce nouveau dessin ? Oui, il est très court, mais j'en ai pris une copie que voici. De nouveau, il retira un papier. La nouvelle danse avait une forme de 5 bonhommes dansant. Le large dos de Hilton Cabot avait à peine disparu de la porte que mon ami se précipita vers la table, y étala les papiers sur lesquels étaient dessinés les petits personnages et se plongea dans des calculs inextricables. Je le contemplais pendant 2 heures, couvrant de chiffres et de lettres des feuilles blanches. Il était si absorbé dans son travail qu'il avait évidemment oublié ma présence. Parfois, quand il était sur la bonne voie, il se mettait à siffler et à chantonner tout en travaillant. À d'autres moments, il paraissait intrigué. Son front se creusait de rides, ses yeux devenaient vagues. Enfin, il bondit de sa chaise en laissant échapper un cri de triomphe et se promena dans la pièce en se frottant les mains. Le soir du second jour arriva une lettre de Hilton Cabot. Tout était tranquille là-bas, mais ce matin-là, il avait trouvé une longue inscription écrite sur le piédestal du cadran solaire et l'en adressait la copie. Holmes se pencha quelques instants sur cette fresque bizarre et tout à coup se leva brusquement, en poussant un cri de surprise et d'inquiétude. Ses traits dénotaient une angoisse poignante. « Nous avons laissé l'affaire aller assez loin, » dit-il. « Y a-t-il un train qui puisse nous amener ce soir à North Waltham ?» Je feuilletai l'indicateur. Le dernier venait de partir. « Alors nous déjeunerons de bonne heure et nous prendrons le premier train demain matin. Notre présence là-bas est urgente. « Ah, voici le télégramme attendu. Un instant, Madame Hudson. Il y aura peut-être une réponse ?»« Non. » Tout est comme je pensais. Ce messager rend encore plus nécessaire notre présence là-bas, car il est indispensable de faire connaître à Hilton Cabot dans quel guépier il est tombé. Descendu en gare de North Waltham, nous avions à peine indiqué où nous allions que le chef de gare se précipita vers nous. « Vous êtes sans doute les détectives de Londres ?» dit-il. Un soupçon d'inquiétude passa sur la figure de Holmes. « Qui vous le fait croire ?»« L'inspecteur Martin de Norwich. vient de descendre. Au fait, vous êtes peut-être les médecins. Elle n'est pas morte, ou du moins, elle ne l'était pas aux dernières nouvelles. Vous arriverez peut-être à temps pour la sauver et la conserver pour l'échafaud. » Le front de Holmes se rembrunit encore. « Nous allons à Ridingthorpe Manor, » dit-il, « mais nous ne connaissons rien de ce qui a pu s'y passer. »« C'est une terrible affaire, » dit le chef de gare. « Monsieur Elton Cobbett et sa femme ont reçu chacun un coup de feu. Elle l'a tué et s'est suicidée ensuite, » disent ses domestiques. « Il est mort, lui, et quant à elle, son état est désespéré. Mon Dieu, une des plus vieilles et des plus honorables familles du comté de Norfolk. » Sans perdre son temps en paroles inutiles, Holmes sauta dans une voiture et, pendant le trajet de 7 miles, il garda un silence obstiné. Je l'ai rarement vu plus préoccupé. Il avait été inquiet pendant tout le voyage, et j'avais remarqué la tension toute particulière qu'il avait apportée à la lecture des journaux du matin. Mais devant la réalisation soudaine de ses craintes, il resta absolument affaissé. Il s'était enfoncé sur son siège et demeurait abîmé dans ses rêveries. Enfin, l'arrêt violette de la mer du Nord se détacha sur la côte verdoyante du Norfolk, et le cocher désigna de son fouet de vieilles lucarnes de briques qui s'élevaient au-dessus d'un bouquet d'arbres. « Voici le manoir de Ridingthorpe, » dit-il. Comme nous approchions du portail, je remarquai à côté de la pelouse du tennis une sombre maisonnette servant à abriter les outils et le cadran solaire posé sur le piédestal, qui avait joué un rôle si étrange. Un petit homme tiré à 4 épingles, aux manières vives et alertes, à la moustache cirée, descendait d'un dog-cart. Il se présenta comme étant l'inspecteur Martin de la police de Norfolk, et il parut très étonné quand il apprit le nom de mon ami. « Le crime a été commis cette nuit à 3 heures du matin, monsieur Holmes. Comment avez-vous pu l'apprendre à Londres et vous trouver ici en même temps que moi-même ? » ?»« Je le prévoyais, et j'arrivais avec l'espoir de l'empêcher. » L'inspecteur Martin eut le bon sens de laisser mon ami agir à sa façon et se contenta de noter avec soin les résultats de l'enquête. Vieillard à cheveux blancs venait précisément de quitter la chambre de Madame Hilton Cobbett et déclara que ses blessures, tout en étant graves, n'entraîneraient pas fatalement la mort. La balle l'avait traversé le cerveau et sans doute la victime resterait longtemps avant de reprendre connaissance. Il n'osait d'ailleurs se prononcer et déclarer si on avait tiré sur elle ou si elle-même s'était blessée. Le coup avait certainement été tiré de très près. On n'avait trouvé dans la chambre qu'un seul revolver dont 2 balles seulement avaient servi. Quant à Hilton Cobbett, il avait eu le cœur traversé par le projectile. Il était impossible de dire lequel des deux avait fait feu sur l'autre, car le revolver gisait à égale distance du mari et de la femme. « A-t-on dérangé le cadavre ?» demanda Holmes. « Nous n'avons touché qu'à la femme. Il était impossible, blessée comme elle était, de la laisser tendue sur le plancher. » « Depuis combien de temps êtes-vous ici, docteur ?»«
Depuis 4 heures du matin. »«
Qui vous a envoyé chercher ?»«
La femme de chambre, Madame Saunders. » »«
Et c'est elle qui a donné l'alarme ?»«
Elle et Madame King, la cuisinière. » »«
Nous ferons bien de recueillir de suite leur déclaration. » Le vieux hall, au lambris de chêne, aux fenêtres démesurées, ne tarda pas à présenter l'aspect d'un cabinet d'instruction. Holmes s'assit dans un antique fauteuil. Ses yeux scrutateurs brillaient au milieu de sa figure anxieuse. Je lisais dans son regard l'intention bien arrêtée de consacrer sa vie à l'éclaircissement de ce mystère, jusqu'au moment où il réussirait à venger la mort de notre client, dont il n'avait pu sauvegarder l'existence. L'inspecteur Martin, le vieux médecin à cheveux blancs, moi-même et un solide policeman du village composaient ce groupe étrange. Les deux femmes firent leur récit avec clarté. Elles avaient été réveillées au milieu de leur sommeil par le bruit d'un coup de feu, suivi, 1 minute après, d'un deuxième. Elle couchait dans 2 chambres distinctes, se communiquant. Madame King s'était précipitée chez sa compagne. Toutes 2 étaient descendues ensemble. La porte du cabinet de travail était ouverte et une bougie allumée se trouvait sur la table. Leur maître était étendu au milieu de la pièce, la face contre terre. Il était mort. Près de la fenêtre était allongée sa femme, la tête contre le mur. Sa blessure était horrible à voir. Tout un côté de la tête était couvert de sang. Elle respirait péniblement et était incapable de proférer une parole. Le corridor et la pièce étaient remplis de fumée et de l'odeur de la poudre. La fenêtre était certainement fermée. Sur ce point, les 2 femmes étaient très énergiques. Elles avaient aussitôt fait prévenir le médecin et la police, puis avec l'aide du groom et du garçon d'écurie, elles avaient transporté leur maîtresse dans sa chambre où les 2 époux avaient, pendant la nuit, partagé le même lit. Madame Cobbett était vêtue de sa robe,
Son mari n'avait que sa robe de chambre par-dessus ses vêtements de nuit. Rien n'avait été dérangé dans le cabinet de travail. Elle n'avait jamais soupçonné une cause de dissentiment entre le mari et la femme, et considérait le ménage comme très uni. Tels étaient les faits établis par les témoignages des domestiques. De plus, il résultait de leur déclaration à l'inspecteur Martin que les portes étaient fermées à l'intérieur et que personne n'avait pu s'enfuir de la maison. Elles avaient enfin affirmé, à Holmes, qu'elles avaient senti l'odeur de la poudre dès le moment où, ayant quitté leur chambre, elles étaient arrivées sur le palier. « J'attire votre attention tout spécialement sur ce détail, » dit Holmes en s'adressant à son collègue officiel. « Et maintenant, c'est le moment, à mon avis, de commencer l'examen minutieux de l'appartement. » Le cabinet de travail était une petite pièce garnie, sur trois de ses faces, d'une bibliothèque. Un bureau se trouvait en face d'une fenêtre donnant sur le jardin. Notre attention fut d'abord attirée par le cadavre du malheureux Hilton Cabot, étendu sur le sol. Le meurtrier devait lui faire face au moment où il avait tiré, car le projectile, après avoir traversé le cœur, n'était pas sorti. La mort avait dû être instantanée. Aucune marque de poudre ne se voyait sur ses mains ou sur sa robe de chambre, tandis que, d'après l'examen médical, la femme en avait quelques traces sur la figure, mais aucun cependant sur les mains. « Cette différence est sans importance, » dit Holmes, tandis que le contraire pourrait tout expliquer. À moins d'un défaut dans la fabrication de la cartouche, qui est pour effet de projeter la poudre en arrière, on peut faire feu à différentes reprises sans emporter la marque. Vous pouvez maintenant, je pense, faire enlever le cadavre. Vous n'avez pas extrait la balle reçue par la jeune femme, n'est-ce pas, docteur ? Non. Avant qu'on puisse le faire, il faudra une sérieuse opération. Voyez, il y a encore 4 cartouches dans le revolver. 2 seulement ont été tirées. Et comme il y a 2 victimes, cela fait bien le compte. On le dirait, tout au moins, dit Holmes. Mais comment expliquerez-vous cette 3e balle qui a manifestement frappé dans cette fenêtre ? Il s'était tout à coup détourné, et son doigt effilé désignait un trou qui avait traversé la fenêtre à quelques pouces du bas. « Pardieu ! » s'écria l'inspecteur. « Comment avez-vous vu cela ?»« Uniquement parce que je l'ai cherché. »« C'est merveilleux, » dit le médecin. « Vous êtes dans le vrai, monsieur. Si un 3e coup a été tiré, c'est qu'une 3e personne devait se trouver là. Mais laquelle ? Et comment a-t-elle pu s'enfuir ?»« Voilà le problème que nous avons à résoudre, » dit Sherlock Holmes. « Vous vous rappelez, inspecteur Martin, que les domestiques ont affirmé avoir senti l'odeur de la poudre en sortant de leur chambre et que j'ai fait une remarque sur l'importance réelle de ce détail. Oui, monsieur, mais j'avoue que je ne la voyais pas. Eh bien, je voulais dire qu'au moment où les coups de feu ont été tirés, la fenêtre et la porte de l'appartement étaient ouvertes, sans quoi l'odeur de la poudre ne se fût pas répandue aussi rapidement dans la maison. Pour cela, il fallait un courant d'air. Mais la porte et la fenêtre ne sont, à mon avis, restées ouvertes que très peu de temps. « Comment le prouver ?»« Parce que la bougie n'a pas coulé. »« Étonnant !» s'écria l'inspecteur. « Étonnant !»« Étant donc certain que la fenêtre était ouverte au moment du drame, je me suis dit qu'un 3e personnage devait être mêlé à l'affaire, qu'il avait dû se tenir à l'extérieur, tiré à travers la fenêtre ouverte. Un coup de feu, dirigé de l'intérieur sur cette personne, avait donc pu faire un trou à la fenêtre. J'ai regardé et j'ai constaté que mes prévisions étaient justes. Mais comment la fenêtre a-t-elle été trouvée fermée à l'intérieur ? La première idée de la femme aura été sans nul doute de la fermer. Mais que vois-je ? Sur le bureau était posé un élégant sac à main en peau de crocodile avec une montre en argent. Holmes l'ouvrit et en sortit le contenu. Il y avait 20 billets de la Banque d'Angleterre de 50 livres sterling chacun, liassés par une bande de caoutchouc. « Il faut saisir cet objet comme pièce à conviction, » dit Holmes, en tendant le sac et le billet à l'inspecteur. « Et maintenant, essayons de faire la lumière sur cette 3e cartouche qui, évidemment, d'après l'aspect du bois de la fenêtre, a été tirée de l'intérieur. Je voudrais bien entendre à nouveau Madame King, la cuisinière. « Vous avez déclaré, » dit-il en s'adressant à celle-ci, « que vous avez été réveillée par le bruit d'une violente détonation. Vouliez-vous dire par là que la première entendue par vous était plus forte que la seconde ?»« Il m'est difficile de préciser car j'étais réveillé en sursaut. » Mais cette détonation m'a paru très forte. Ne pensez-vous pas que c'était comme 2 coups de feu tirés simultanément ? Je ne pourrais l'affirmer. Cela devait être pourtant. L'examen de cette pièce nous a donné tout ce que nous avions à recueillir. Si vous voulez bien, inspecteur Martin, Nous allons nous rendre dans le jardin pour voir si nous pouvons y découvrir quelque indice nouveau. »
Une plate-bande s'étendait sous la fenêtre du cabinet. Nous jetâmes tous une exclamation en approchant. Les fleurs avaient été piétinées, et le terreau était couvert de larges empreintes d'un pied d'homme, à l'extrémité particulièrement longue et effilée. Holmes fouilla le gazon et le feuillage comme un chien qui guette un oiseau blessé. Tout à coup, il poussa un cri de satisfaction et ramassa un petit cylindre de cuivre.
« Je le pensais bien, » dit-il. « Le revolver avait un éjecteur, et voici une troisième cartouche. Je crois cette fois, inspecteur Martin, que nos recherches sont complètes. »
La figure de celui-ci dénotait une immense stupéfaction des découvertes successives faites de main de maître par Holmes.
Au commencement, il avait montré quelques velléités de mettre en avant sa position officielle, mais il était désormais rempli d'admiration et prêt à suivre, à la lettre, toutes les instructions que Holmes voudrait bien lui donner.
« Tout d'abord, je désire savoir s'il y a dans les environs une auberge du nom de Elridge. »
Les domestiques furent questionnés sur ce point. Aucun d'entre eux n'en avait entendu parler. Seul le garçon d'écurie se rappela qu'un fermier de ce nom habitait à quelques milles dans la direction de East Ruston.
« Est-ce une ferme isolée ?»«
Oui, très isolée, monsieur. »« Peut-être n'a-t-on pas encore entendu parler des événements de cette nuit ?»«
C'est possible, monsieur. »
Holmes réfléchit un instant, puis un sourire étrange glissa sur ses lèvres.
« Sellez un cheval, mon garçon, » dit-il. « Vous allez porter un mot à cette ferme. »
Il tira de sa poche les papiers sur lesquels étaient dessinés les bons hommes dansant, et il les plaça en face de lui sur le bureau où il se mit à écrire. Enfin, il donna au garçon d'écurie une note, en lui recommandant de la remettre en main propre et surtout de ne pas répondre à aucune des questions qui pourraient lui être posées. Je vis l'enveloppe de la lettre écrite en caractères très irréguliers, ne ressemblant rien à l'écriture si précise de Holmes. Elle était adressée à M. Abe Slaney, ferme Elridge, East Ruston, Norfolk.
« Je pense, » observa Holmes à M. Martin, « que vous ferez bien de demander une escorte par télégramme, car si mes prévisions sont exactes, vous aurez un individu fort dangereux à conduire à la prison du comté. »
Quand le jeune homme fut parti avec la note, Sherlock Holmes monta au salon en déclarant que sa tâche était terminée et que nous n'avions plus qu'à nous distraire en attendant le dénouement. Le docteur était parti voir ses malades et je restais seul avec Holmes et l'inspecteur.
« Je vais pouvoir, j'espère, vous faire passer une heure d'une manière aussi intéressante qu'instructive, » dit Holmes, s'asseyant près de la table et plaçant devant lui les dessins des bons hommes.
« Pour vous, inspecteur, je dois d'abord vous faire part des circonstances toutes particulières dans lesquelles M. Elton Cabot est venu me rendre visite à Baker Street. »
Il raconta brièvement les faits. « J'ai ici devant moi, » continua-t-il, « ces élucubrations extraordinaires qui pourraient faire sourire, s'il n'avait pas été le prélude de cet horrible drame. Je suis très au courant de toutes les sortes d'écritures secrètes. L'objectif de ceux qui ont inventé ce système était sans doute d'empêcher de croire qu'il s'appliquait un message et de faire plutôt supposer que ces signes étaient seulement des dessins faits par des enfants. Supposant toutefois qu'ils se rapportaient aux lettres d'un alphabet, j'appliquais les règles qui permettent de déchiffrer les écritures secrètes et la solution ne fut pas difficile. Le premier message qui me fut soumis était tellement court qu'il me fut impossible de trouver autre chose que la signification du signe « un bonhomme dansant ». Comme vous le savez, la lettre E est la plus fréquemment employée de l'alphabet anglais, et sa prédominance est tellement marquée qu'on la trouve dans les phrases les plus courtes. Or, sur les 15 signes qui composaient le premier message, 5 étaient semblables. Il était donc raisonnable de conclure qu'il correspondait à la lettre E. Il est vrai que tantôt le signe portait un drapeau, tantôt il n'en portait pas, mais la manière dont les drapeaux étaient disposés, je me doutais qu'il n'était employé uniquement que pour diviser les mots dans les phrases. J'émis donc cette hypothèse que la lettre E était représentée par le signe « un bonhomme dansant ». C'était là la grosse difficulté. Après le E, l'ordre d'emploi des lettres est peu marqué en anglais, et la prédominance de certaines lettres qui apparaît dans une page entière peut être absolument modifiée dans une courte phrase. D'ordinaire, l'ordre d'emploi des lettres est par ordre numérique, le suivant, T-A-O-I-N-S-H-R-D-E-L, mais T-A-O et I peuvent être mis sur le même pied. C'eût été un travail trop long d'essayer chaque combinaison jusqu'à la solution. On y donc une autre épreuve. À sa seconde visite, M. Elton Cabot me remit de petites phrases, puis un message qui ne contenait pas de drapeau, et me sembla être un mot unique. La difficulté n'était pas encore vaincue. Une idée heureuse me permit de découvrir d'autres lettres. Je pensais que cette demande devait venir de quelqu'un ayant eu autrefois des rapports d'intimité avec la jeune femme et que, par conséquent, si je découvrais un mot ayant deux œufs séparés par un groupe de trois lettres, ce mot pourrait correspondre au mot Elsie, le prénom de la jeune femme. Je trouvais que cette combinaison terminait la phrase dans trois espèces différentes. Dès lors, mon travail était facilité. À l'aide de réflexions psychologiques, autant que de déductions graphologiques, je découvris le mot never, jamais, et fus bientôt en mesure de reconstituer le premier message « I'm here, Abe Slaney ».« Suis ici, Abe Slaney ». J'avais obtenu un tel nombre de lettres que je pouvais espérer découvrir le second message qui, avec mes découvertes précédentes, donnait le résultat suivant à Elry S. La phrase ne pouvait présenter de sens qu'avec un T et un G qui manquaient chez Elridge's, et je pensais que c'était là le nom soit de l'auberge, soit de la maison où était descendu le correspondant inconnu. L'inspecteur Martin et moi avions écouté avec le plus vif intérêt le récit des résultats surprenants obtenus par mon ami malgré de telles difficultés. « Et alors, que faites-vous ? » demanda l'inspecteur. J'avais toute raison de croire que Abe Slaney était un Américain, puisque Abe est une contraction américaine du mot « able », et qu'une lettre portant le timbre de ce pays avait été le point de départ de toute l'affaire. Les allusions de la jeune femme à son passé, son manque de confiance envers son mari, tout semblait confirmer cette hypothèse. Je télégraphiai donc à mon ami Wilson Hargraves, de la police à New York, qui s'est parfois servi de mes connaissances en matière de crime. Je lui demandais si le nom d'Abe Slaney lui était connu. Voici sa dépêche. Le gredin le plus dangereux de Chicago. Le soir même où je recevais cette réponse, Hilton Cubitt m'adressa le dernier message de Slaney. L'addition d'un P et d'un D compléta le message sur lequel on pouvait lire la phrase suivante. Elsie, re, are, to meet thy go. Elsie, prépare-toi à paraître devant Dieu. Ceci m'attestait que le gredin avait passé de la persuasion aux menaces, et connaissant les bandits de Chicago, je compris qu'il ne tarderait pas à les mettre à exécution. Je partis tout de suite pour Norfolk avec mon collègue et ami le docteur Watson, mais malheureusement le crime avait été commis. « Mais l'assassin, » fit l'inspecteur. « Tenez, » dit Holmes, « le voilà précisément qui monte l'avenue. » Un homme, en effet, se dirigeait vivement vers la porte. Il était grand et beau, son teint était bronzé, il était vêtu d'un complet en flanelle grise et coiffé d'un chapeau de Panama, portait une barbe noire embroussaillée sous un grand nez aquilin. Nous attendîmes en silence pendant une minute, une de celles qui font époque dans une existence. Enfin, la porte s'ouvrit et l'homme entra. En un instant, Holmes lui appuya sur la tempe un revolver et Martin emprisonna ses poignets dans les menottes. Ce fut fait avec tant de rapidité et d'adresse que l'individu fut mis hors d'état de nuire avant même qu'il se fût rendu compte de ce qui se passait. Ses yeux noirs lançaient sur chacun de nous des regards furieux, puis se mit à rire bruyamment. « Eh bien, messieurs, vous l'emportez. Je me suis attaqué plus fort que moi. Je venais ici pour répondre à une lettre de Mme Hilton Cubitt. Ce n'est pas elle, n'est-ce pas, qui m'a tendu ce piège ?»« Mme Hilton Cubitt est gravement blessée. Elle est aux portes de la mort. » L'homme laissa échapper un cri de douleur qui retentit dans toute la maison. « Alors, s'écria-t-il, qui donc m'a écrit ce billet ?» Il le lança sur la table. « Moi, dans le but de vous faire venir ici. » « Vous l'avez écrit ? Mais personne sur terre, à part la bande du joint, ne connaît le secret des hommes qui dansent. Comment avez-vous pu l'écrire ?»« Ce qu'un homme peut inventer, un autre peut le découvrir, » dit Holmes. « Savez-vous qu'on a fortement soupçonné Mme Hilton Cubitt de l'assassinat de son mari, et que c'est seulement ma présence ici qui a pu la sauver ? Le moins que vous lui devez, c'est d'établir à la face de tous qu'elle n'est en rien responsable, directement ou indirectement, de cette fin tragique. » « Je ne demande pas mieux, » dit l'Américain. « Tout d'abord, je dois vous dire que j'ai connu cette jeune femme quand elle était encore enfant. Nous formions à Chicago une bande de sept malfaiteurs, et le père d'Elsie était notre chef. Ce fut lui qui inventa cette écriture qui pouvait passer pour un gribouillage d'enfant, si on n'en avait pas la clé. Elsie fut initiée à notre vie, mais ne put la supporter. Comme elle avait quelque argent gagné honnêtement, elle prit la fuite et vint à Londres. On l'avait fiancée avec moi. Elle m'aurait sans doute épousé si j'avais consenti à changer de profession, car elle ne voulait avoir aucun rapport avec notre bande.
Ce fut seulement après son mariage que je découvris le lieu de sa retraite. Je lui écrivis et ne reçus aucune réponse. Alors je partis, et comme elle n'avait pas fait attention à mes lettres, je plaçai des messages là où elle ne pouvait manquer de les voir. Voilà un mois que je suis ici. J'ai vécu là-bas dans cette ferme où j'avais une chambre au rez-de-chaussée et pouvais ainsi m'absenter la nuit sans que personne le sût. J'ai fait l'impossible pour enlever Elsie. Je savais qu'elle lisait mes messages, car une fois elle écrivit une réponse au-dessous de l'un d'eux. La colère m'emporta et je commençai à la menacer. Elle m'écrivit alors une lettre me suppliant de partir. Elle ajouta qu'elle descendrait à 3 heures du matin pendant le sommeil de son mari pour me parler par la fenêtre si je consentais ensuite à la laisser en paix. Elle vint donc et apporta avec elle de l'argent qu'elle voulut m'offrir. Je devins fou, je lui saisis le bras et j'essayai de l'attirer à travers la fenêtre. À ce moment, son mari entra, un revolver à la main. Il tira et me manqua, je ripostai aussitôt et il tomba. Je m'enfuis à travers le jardin et comme je partais, j'entendis la fenêtre qui se ferma derrière moi. Voilà la pure vérité, messieurs, toute la vérité. Un cab était arrivé pendant le récit de l'Américain. Deux policemen en uniforme se trouvaient à l'intérieur. L'inspecteur Martin se leva et posa la main sur l'épaule de son prisonnier. « Il est temps de partir, » dit-il. L'Américain Abe Slaney fut condamné à mort à la session des assises de l'hiver à Norwich. Mais sa peine fut commuée en celle des travaux forcés à perpétuité. Ainsi s'achève « Les danseurs » par Arthur Conan Doyle.